Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour aujourd'hui une émission spéciale où je suis très contente de pouvoir recevoir Louis Vincent. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la famille, vous êtes peut-être arrivés sur cette chaîne complètement par hasard. Louis Vincent est mon frère, donc le fils de Charles, et il est à l'origine de la création de la société GAFCAL, qu'on ne présente plus, qui est une société de services financiers indépendante qui a été fondée et qui est basée à Hong Kong et qui est spécialisée dans la recherche macroéconomique et dans la gestion d'actifs. Alors, c'est une société que Louis a montée avec mon père à l'époque parce que ma mère voulait absolument que mon père sorte du salon. Parce que comme on dit souvent en Angleterre, un mari à la retraite, ça fait plus de mari et moins d'argent. Et c'est rarement une bonne équation. Donc, Louis Vincent a pris papa en lui disant « Bon, ben, je m'occupe de tout et je lance une nouvelle boîte ». Et ils ont recruté en même temps un esprit brillant et vif qui est Anatole Kalensky, qui apporte la touche de « je suis pas d'accord avec vous » nécessaire à toute entreprise. Et depuis lors, cette entreprise va qu'un cas de par l'Asie. Ils ont été extrêmement novateurs sur le sujet asiatique bien avant tous les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, Louis, on peut dire que sur l'Asie, vous avez vraiment un des points de vue les plus tranchants.
J'aime le croire.
Voilà, c'est en général ce qu'il se dit dans les milieux informés. Et en tous les cas, c'est pour cela que les clients, souvent, viennent à la fois pour les conseils ou aussi bien pour la gestion de portefeuille.
Et on a aussi un point de vue tout à fait spécial sur la Chine, puisqu'on a des équipes en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, on a la macroéconomie et l'économie chinoise qui sont analysées par des équipes différentes.
Oui, on a notre bureau principal qui est à Hong Kong. Ensuite, on a un bureau de recherche avec une dizaine de personnes à Pékin. Et on a ce bureau à Pékin depuis maintenant plus de 20 ans. Je crois qu'en effet, au sein des boîtes occidentales qui suivent la Chine, on est peut-être quand même assez bien placé.
Voilà. Et c'est aussi important, et c'est drôle parce que tu me disais une fois que comme tu es un des rares à dire, malgré tout, que la Chine va bien et que ça se passe bien, tu as arrêté dans la rue en Chine en disant « Ah, mais vous êtes le blanc qui parle en bien de la Chine !»
Le Guaïlo.
Le Guaïlo, avec sa tête de Guaïlo, comme quoi, c'est rigolo parce qu'en en Europe, on n'a pas du tout conscience de ce monde qui est en train d'arriver, dont Charles parle souvent, qui est cet axe de Valérie Pierris, qui est quelque chose sur lequel on a essayé de vous informer depuis bientôt 3 ans. Et pour ceux comme Louis qui voyagent et qui y vivent, c'est une réalité pratique. Et pour nous, c'est juste une abstraction, mais cette abstraction est réelle. Et un jour, on va la prendre de plein fouet. Et en tant qu'occidentaux, en se disant, mais quand on dit il n'y a pas de croissance en France, il n'y a pas de croissance en Europe, mais ne vous inquiétez pas, la croissance, il y en a, et elle est en Asie, et elle se porte très bien.
Alors, tout ça est vrai. Alors évidemment, la Chine a quand même une dix années compliquées avec un vrai bear market sur l'immobilier qui a entraîné quand même un resserrement des ceintures à la fois au niveau des entreprises et des individus. Et la grande question aujourd'hui, tout comme le Japon a connu aussi quand même 2 décennies très troubles, la question est-ce que tous ces pays, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, même l'Asie du Sud-Est, est-ce que on est en train de vivre un tournant. Je crois qu'il y a beaucoup de chiffres économiques qui le soulignent. Hier encore, la Chine vient de sortir ses chiffres de l'inflation, qui pour moi sont bien plus importants que les chiffres de la croissance ou les chiffres sur l'immobilier ou quoi que ce soit. Hier, on a eu un PPI qui était à 2,8%, en sachant que le PPI, donc le Producer Price Index, les prix des producteurs, au mois de mars, c'était en hausse de 0,5 et là, maintenant, en hausse de 2,8. Et ça est très, très important parce qu'on avait eu 33 mois consécutifs de baisse. On était en déflation. Et gérer une boîte en déflation, c'est un peu un calvaire. Quand tu arrives au bureau tous les matins et que tu sais qu'à la fin du mois, ce que tu vas produire, ce qui va sortir de l'usine va être baissé en prix, tu vis dans un monde où tu es toujours obligé de couper tes coûts, où tu es toujours obligé de te serrer la ceinture. Et ça, ça a été la Chine, donc 33 mois d'affilée de déflation. Et là, maintenant, très nettement sur la tendance, on voit une tendance sur les prix, que ce soit sur l'inflation ou sur les prix à la production qui remontent. Et pour moi, l'énorme changement, il est là. C'est un changement qu'on a vécu au Japon il y a 2-3 ans. Le Japon aussi avait eu année après année de déflation. Et en fait, dès qu'on voit ce retournement, et même chose pour la Corée, dès qu'on voit ce retournement, tout de suite les marges des entreprises s'améliorent.
Mais alors, parlons de déflation, est-ce que on pourrait pas, est-ce que la question n'est pas aussi la sous-évaluation du renminbi ?
Tout à fait. Alors là, justement, mettons-nous, revenons ici sur l'Europe ou sur les États-Unis. Depuis 2021, en gros, on a des chiffres de l'inflation ici en Europe ou aux États-Unis qui sont quelque part plus élevés que la zone de confort, que ce soit pour le consommateur, que ce soit pour les banques centrales. Partout dans nos pays, le sujet est la diminution du pouvoir d'achat, le fait que les gens se font squeezer à droite, à gauche, etc. Et cela s'est passé malgré une vague déflationniste en Chine absolument énorme. La période 2021 à en gros 2025, c'est une période d'énorme faiblesse des monnaies asiatiques, que ce soit le yen. Alors le yen, ça a été de loin le plus faible, mais le Korean won était faible aussi, le renminbi a aussi baissé, et ces pays-là, et principalement la Chine, qui exportaient la déflation, puisqu'ils avaient une déflation énorme chez eux, ils exportaient la déflation de deux façons, à travers leur monnaie et à travers le prix des biens qui chutaient. Cette déflation est maintenant finie. Donc nous, quelque part, maintenant on peut se dire, on a eu une inflation très forte malgré la déflation asiatique. Imaginons ce que cela aurait été si nous n'avions pas eu la déflation asiatique. Et maintenant, la déflation asiatique est finie. Puisque maintenant, le renminbi monte, le won coréen monte, le yen pas encore, mais bon, ça on pourra en parler plus tard, on verra. Mais on a des monnaies asiatiques qui montent maintenant et des chiffres de l'inflation qui se retournent en Asie. Donc, ce qui veut dire que on avait déjà notre vague inflationniste à nous, qui vient d'en reprendre une couche
avec
la crise énergétique, qui va très probablement se morpher en crise de l'alimentation, puisque l'alimentation, la moitié du coût de faire de la bouffe, c'est l'énergie, que ce soit le coût des engrais, que ce soit le diesel dans le tracteur, que ce soit les camions frigorifiques pour bouger les choses.
Les plastiques autour des bouteilles.
Les plastiques, etc. Donc la moitié du prix de la bouffe, c'est de l'énergie. Donc le fait que l'énergie vienne de monter de 40%, ça va se refléter dans la bouffe d'ici 6 à 12 mois.
Et donc ça fait hausser aussi ce dont on parle souvent, le panier des gilets jaunes, c'est-à-dire des plus petits gens. Parce que c'est ni toi ni moi qui sommes impactés tant que ça par une hausse. C'est-à-dire, si mon yaourt passe de 2,30€ les 4 à 2,70€, ça va pas me faire une différence, mais il y a des gens pour qui ça fait une différence incroyable. Et c'est cette tranche de la population qui était celle des gilets jaunes. Et
surtout, ce sera probablement pas 2,30€, mais plutôt 4. Ce ne sera pas 2,30 à 2,70, mais plutôt 4. Et en même temps, le prix du t-shirt que tu importais de Chine...
Par ailleurs, croissance déflationniste...
Ou le prix de cette tasse, qui a dû être faite en Chine, à tous les coups. Le prix de ce micro, soit dit en passant sur le micro, je dois dire que ma femme me dit toujours que la taille n'a pas d'importance, mais je suis quand même un peu intimidé. Je suis quand même intimidé par la taille de ce micro. Mais pour revenir à la Chine, l'énorme changement que l'on vit aujourd'hui, c'est que la Chine a été une force déflationniste pour le monde très très forte ces 3-4 dernières années, puisque la Chine elle-même vivait un cycle déflationniste énorme, et ce cycle déflationniste se termine aujourd'hui. Et je crois que pour nous occidentaux, il se termine quelque part au pire moment, puisqu'on se prend déjà un coup inflationniste ailleurs. Donc c'est un deuxième choc inflationniste qu'on va se prendre et auquel les gens ne pensent pas forcément.
Papa, est-ce que tu as déjà vu dans l'histoire des cas de cercle déflationniste comme ça qu'une économiste prenait ?
En réfléchissant bien, l'inflation, la déflation, c'est des problèmes très importants. Mais ce qui est important aussi, c'est la position des taux longs par rapport à l'inflation. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans nos pays qui ont subi une vague inflationniste, les banques centrales se sont battues pour que le taux long ne monte pas. Et donc, on va se retrouver aujourd'hui, si l'inflation monte, les taux vont être obligés de monter et ils vont partir d'une zone qui est déjà beaucoup trop basse. Donc, si pour arriver à un niveau où sera un effet sur l'inflation, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, ce qui m'inquiète,
continuer à se battre. Je suis désolé de vous interrompre.
Bien sûr.
Aujourd'hui, pour moi, l'une des forces les plus importantes sur le marché, en ce moment même, c'est que dès que les taux américains à 10 ans touchent 4,40, donc de 4,4%. Dès qu'ils touchent 4,4% sur le 10 ans américain, les Américains interviennent, font des déclarations. Ah, c'est bon, on a la paix en Iran.
Ah oui, oui, bah ça, c'est ce que fait alors, Trump tous les deux jours.
Non, tiens, bah, pas si tous les deux jours. Ils le font, en fait,
oui,
chaque fois que les taux longs tapent 4,40. Donc, tu regardes, chaque fois que les taux longs s'approchent de 4,40, et il y a une intervention, ou alors ils relâchent bien plus de pétrole de la réserve stratégique. Donc là, les derniers chiffres sur la réserve stratégique sont sortis, et ils ont sorti bien plus que ce à quoi les gens s'attendaient. Ils ont sorti bien plus que, par exemple, ce qu'ils ont sorti à l'époque de la guerre en Ukraine, quand Trump gueulait sur Biden, ah, pourquoi est-ce qu'il relâche la réserve stratégique, etc. Donc là, chaque fois, pour revenir à ce que disait Charles, chaque fois qu'on touche 4,40, il y a un effort très très puissant du Trésor américain, du Département de l'énergie américain, pour faire en sorte qu'on passe pas au-dessus de CAC 40. Donc, très nettement, Scott Bessent ou le Trésor américain trouve que CAC 40, c'est une zone de danger. Alors, que c'est une zone qu'il faut pas dépasser.
Qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait quoi si il y a Godzilla qui sort d'un placard?
Alors, en fait, CAC 40, ça veut dire que les mortgage rates passe au-dessus de 6,5.
C'est-à-dire les hypothèques.
Les hypothèques. Le taux d'emprunt pour acheter de l'immobilier aux États-Unis, en gros, passe au-dessus de 6,5. Quand t'es à 4,50, t'es à 6.
Donc,
parce qu'il faut compter 200 points de base de plus.
Ça déclencherait une crise sur l'immobilier?
Alors, je sais, une crise, c'est un gros mot, mais ça déclenche. Alors, ce qu'on a vu, chaque fois qu'on passe au-dessus de 6,5 sur l'immobilier américain, il y a un ralentissement dans l'immobilier. Ça veut pas dire une crise, mais ça veut dire quand même un ralentissement. Et donc peut-être qu'aujourd'hui Scott Bessent se dit avec tout ce qui se passe dans le monde, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est un ralentissement sur l'immobilier, donc je vais pas prendre ce risque. Je vais pas prendre le risque d'avoir un ralentissement sur l'immobilier américain. À mon avis, c'est la logique. Mais en effet, le risque sous-jacent est que si 4,40 craque, puisqu'aujourd'hui la perception du marché est que bon, c'est bon, de toute façon dès qu'on arrive à 4,40, ils interviennent d'une façon ou d'une autre.
Et donc, j'achète des actions.
Et donc, j'achète des actions à 4,40 parce que je sais qu'ils vont rajouter de la liquidité, que
j'achète des semi-conducteurs ou de l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a que ça qui monte.
Alors, j'achète ce qui monte, mais...
Ça, j'aimerais qu'on en reparle après, mais bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais on a effectivement ce marché des semi-conducteurs qui... Si on le décorrèle du S&P dans son ensemble, on voit vraiment qu'il y a les semi-conducteurs qui font comme ça et le reste du S&P qui est tranquille. Et en fait, tout est tenu par les semi-conducteurs. Et au bout d'un moment, enfin, l'IA, et on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, dont il y a une pierre philosophale qui a été trouvée, il y a un truc qu'on n'est pas au courant, pourquoi cet emballement soudain autour des semi-conducteurs, ou alors il y a un truc que je sais pas.
Écoute, rappelle-toi, en 2007-2008, il était déjà assez évident que l'immobilier américain commençait à se casser la gueule, il était assez évident que les banques avaient des tas de difficultés, il y avait déjà Countrywide qui avait implosé, il y avait Bear Stearns, enfin. Et le pétrole continuait de monter. Le pétrole, les gens oublient, mais le pétrole entre 2007 et 2008 est passé de 80 à 150 dollars à l'époque. En dollars d'aujourd'hui, ça fait environ 220 dollars, pour dire à quel point le pétrole aujourd'hui est toujours pas très cher. Et l'idée à l'époque, c'était que il y aura pas assez de pétrole pour tout le monde.
Oui.
C'était la grande idée du moment. Et donc
idée qui depuis était là depuis le Club de Rome, qui nous expliquait qu'aussi on allait tous mourir dans d'autres temps de souffrance et il y en aurait pas assez pour tout le monde.
C'est une idée qui revient de façon régulière, dans les marchés financiers, c'est tu prends quelque chose et il y en aura pas assez pour tout le monde.
Ouais.
Et donc ça passe au travers du toit. Donc en 2006, les actions énergétiques américaines faisaient 10% de l'indice et en 2008, elles faisaient 16% de l'indice. Et en gros, la seule façon de surperformer en 2006, 7, 8, c'était d'être surpondéré les valeurs énergétiques.
Aujourd'elles font 3,5.
On en parle souvent dans le portefeuille en disant que c'est pas normal qu'elles soient aussi sous-représentées. Mais bon,
donc,
ça c'est un autre sujet.
Et donc si tu prends les semi-conducteurs, il y a 2 ans, ils faisaient 10% du marché des actions. Aujourd'hui, ils en font 18. Et l'idée de base, tout comme en 2008, est qu'on n'aura pas assez de semi-conducteurs pour tout le monde. Que Samsung, TSMC, etc. ne pourront pas produire assez. L'une des raisons pour laquelle on a un shortage aujourd'hui, il faut pas oublier. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait un shortage de semi-conducteurs? À la limite, tu peux me dire, le pétrole, bon, bah voilà, il y en a dans le sol, et puis si on le sort, après, on n'en a plus. On le sort, on le brûle, il n'y en a plus, et puis après, il n'y en a plus dans le sol, il n'y en a plus. J'ai jamais cru à cette thèse, mais au moins, il y a une certaine logique mais à la thèse. Oui. La thèse de, il n'y aura pas assez de semi-conducteurs pour tout le monde, c'est en gros de dire, on n'aura pas assez de sable. Parce que,
Du sable en semi-conducteur.
Il n'y a pas assez de semi-conducteurs pour tout le monde parce qu'on n'a pas laissé la Chine faire des semi-conducteurs.
Tu regardes, et c'est exactement ça.
Si on les avait laissé faire comme d'habitude.
Tu regardes dans le monde industriel, les semi-conducteurs, c'est la seule chose dont on n'a pas assez parce qu'on a empêché la Chine d'importer les machines pour faire des semi-conducteurs.
Sinon, ils auraient fait comme d'habitude, ils en auraient fait beaucoup à très bas prix.
Voilà. Exactement.
Et
tout le monde en aurait plein et on n'en parlerait plus. Mais ceci étant dit, la Chine aujourd'hui dépense des milliards de dollars et des milliards de dollars et des centaines de milliers d'ingénieurs pour rattraper ce retard sur les semi-conducteurs. Pour eux, c'est une question de sécurité nationale.
Bien
donc
sûr.
Ils ont
depuis 10 ans, ils n'arrivent pas à faire les machines.
Depuis 10 ans, ben justement, ils y arrivent. Mais alors, c'est une question de temps. Mais aujourd'hui, de dire, on va pas se bourrer de semi-conducteurs aujourd'hui, c'est de dire, non seulement on va pas avoir assez de semi-conducteurs. Mais on va pas avoir assez de semi-conducteurs compte tenu de ce qui se passe pour les années à venir. Ce qui veut donc dire que on fait le pari que un ou bien les restrictions sur la Chine vont continuer, ce dont je ne suis pas sûr, ou bien deux. Donc ça c'est pari numéro un. Et le deuxième pari, c'est que la Chine ne pourra jamais rattraper son retard. Parce que si la Chine rattrape son retard, il y a aucune raison de se bourrer de. C'est comme en gros. Prenons les bagnoles comme exemple. C'est comme se dire, ah ben tiens, la Chine va avoir besoin de beaucoup de bagnoles. Je vais acheter du Stellantis, du Ford Motor et du Renault et du Volkswagen parce qu'il n'y aura pas assez de voitures pour tout le monde. Aujourd'hui, on sait que si tu avais fait ça il y a 10 ans, ça n'aurait pas marché. Donc, aujourd'hui, si tu te bourres de semi-conducteurs...
En fait, c'est ce que l'Allemagne a fait. C'est ce que l'Allemagne a fait, elle s'en mord les doigts. Hein.
C'est ce que l'Allemagne a fait parce qu'elle ne savait pas faire autre chose. ils se sont dit, ah bah tiens, chouette, ils aiment les bagnoles, on va en faire. Ils étaient très contents. Mais en effet, entre-temps, la Chine a fait ses propres bagnoles. Donc aujourd'hui, faire un pari des semi-conducteurs quand ils sont 18% du marché américain, faire un pari des semi-conducteurs quand trois boîtes, que ce soit TSMC, Samsung et SK Hynix, font plus d'un quart du marché semi-conducteurs des pays émergents, c'est en gros faire le pari qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ce qui peut tout à fait être le cas sur les trois prochains mois, mais je doute que ce sera le cas sur les trois prochaines années.
C'est-à-dire c'est à très court terme, mais pas à moyen ni à long terme. Donc pour ceux qui placent un portefeuille à moyen ou long terme...
Ceci dit, sur le court terme, je veux dire, je suis même très dubitatif. Alors moi, il me restait un peu de Samsung Electronics dans mon portefeuille. Là, je viens de vendre ce qui me restait. Le Samsung Electronics est en hausse de 30% sur le mois. Sur le mois, au mois de mai. Hein. Et on est quoi? On est le 12 mai. Mmh. Donc, sur 12 jours. Enfin, même pas, puisque c'était 8 jours. Donc, je viens de vendre ce qui me restait. Et en partie parce que... on arrive aujourd'hui, si tu veux, la volatilité sur les titres est telle. Donc... Si tu as acheté du Samsung et que tu avais une grosse position Samsung dans ton portefeuille, de l'autre côté, tu pouvais dire, ah ben tiens, je vais acheter des puts sur Samsung pour...
Option de vente qui vous permet de vous protéger contre une baisse.
Voilà, donc si tu achètes des puts, or, Samsung continuait de monter, donc tu aurais pu croire que tes puts allaient valoir de moins en moins. Or, tes puts... restaient plus ou moins à la même valeur, même quand Samsung montait, parce que la volatilité... augmentant, la valeur de ton put augmente aussi. Donc, quand là se déclenche, alors bon, c'est un peu technique, je suis désolé.
Quand on voit ça,
d'habitude, on arrive quand même assez proche d'une fin. C'est un signe qu'on arrive vers une fin. Donc.
Alors, en parlant de la fin, pardon, c'est juste, qu'est-ce que vous attendez tous les deux, toi, tiens, dis-moi, de la réunion entre Trump et Xi Jinping qui se tient aujourd'hui avec les 16 chefs d'État? De quoi tu crois qu'il...
Je crois que c'est dans deux jours, hein, ça commence le 14.
Le 14, je croyais que ça avait commencé là.
Je crois qu'il prend l'avion, mais c'est le 14 et le 15, je crois.
Ah, d'accord.
Moi, ce que je crois, c'est que... Mais je ne suis pas très un grand spécialiste de ce qui se passe dans le domaine politique, parce que en général, c'est une façon d'expliquer pourquoi tu vas faire une erreur, quoi. Tu vois, c'est comme les gens qui ont vendu les obligations chinoises pour acheter les obligations américaines il y a quelques années. Pour moi, Trump est dans une position extraordinairement faible. Il va essayer de demander des faveurs à Xi Jinping, et l'autre va lui demander, bah, écoutez, moi je veux bien, mais laissez-moi faire des machines semi-conducteurs. Je sais pas, moi, ce sera un peu ça le deal.
Alors, je crois que c'est l'un des risques, en effet, pour les semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui le driver du marché. C'est-à-dire que Trump, aujourd'hui, va en Chine, de quoi a-t-il besoin? Pourquoi est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'il monte dans l'avion? Alors, d'abord, ce qui est assez intéressant, c'est les types qu'il prend avec lui dans l'avion.
Oui, il a 16 business...
Il a 16 patrons, dont 5 ou 6 patrons de boîtes financières. Donc, il amène il amène le patron de Blackstone, il amène le patron de BlackRock, amène le patron de Visa, il amène le patron de Mastercard. Donc, il va y avoir très nettement une demande de déréglementation... de déréglementation financière de la part des Américains. Ce qui est logique, vu que ça reste, le secteur financier reste un des gros avantages comparatifs américains. Donc, ils vont demander une déréglementation financière. L'autre chose que Trump va demander, c'est qu'il va dire, écoutez, cher ami, vendez-moi plus de rare earths, de métaux...
Ils ont besoin de terres rares, ils ont besoin d'aimants.
Et d'aimants. En partie parce que leur armurerie est maintenant vide. Ils ont tout grillé.
Et qu'ils ont voté des budgets d'État absolument colossaux. Donc il va bien leur falloir fameuses terres rares pour ceci et cela.
Pour ceci et cela. Alors, de l'autre côté...
Porte-avions et autres...
De l'autre côté, que va demander Xi Jinping, comme dit Charles? Il va dire, OK, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas d'acheter vos semi-conducteurs, mais d'acheter les machines qui produisent les semi-conducteurs. Parce que je veux les produire moi-même.
Oui, donc, pour avoir une autonomie.
Donc, en gros, c'est d'acheter les machines à ASML. ASML et Tokyo Electron. Donc, ça, c'est pour celui qui veut être long les semi-conducteurs. Pour moi, il y a plus de logique à être long les producteurs de machines que de semi-conducteurs en soi.
ASML, c'est des Hollandais.
C'est des Hollandais. C'est la plus grosse capi européenne aujourd'hui. ASML. ASML, c'est la plus grosse capi européenne.
Capi, c'est capitalisation. Hein.
Capitalisation boursière. Donc, c'est la plus grosse boîte européenne de taille sur le marché. Alors, ça, c'est la première chose que Xi va demander. On a la deuxième chose que Xi demande, c'est vous arrêtez de faire des interventions et de nous emmerder sur Taïwan et sur Hong Kong.
Oui.
Le coup de la révolution, des révolutions de couleur à Hong Kong, et c'est fini. Ou sinon, on arrête tout de suite les métaux rares. Et là, je crois que la messe a déjà été dite. On a vu la dirigeante du parti d'opposition taïwanais, qui sera très probablement la prochaine présidente, faire une visite de Pékin, s'asseoir avec Xi Jinping. Xi Jinping lui a promis tout un tas de deals sur le tourisme,
et
sur l'importation.
Si je peux me permettre, historiquement, c'était la descendante de Chiang Kai-shek. C'est-à-dire que c'était le parti qui était...
En fait, c'est même plus que ça, Charles. C'est la descendante de Sun Yat-sen. Quand tu prends le parti nationaliste chinois, c'est ensuite scindé, que Sun Yat-sen avait créé. C'est ensuite scindé entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et le parti communiste, en sachant que la veuve de Sun Yat-sen est restée avec les communistes.
Et les filles sont parties avec Chiang Kai-shek.
Pas toutes.
Qui a épousé Chiang Kai-shek.
Alors, en fait, ce qui se passait, c'est que dans le premier gouvernement nationaliste chinois, qui avait été financé par un gars qui s'appelait Sung, qui avait fait fortune en vendant des bibles en Chine, son fils était ministre des Finances de Chiang Kai-shek, sa fille a épousé Chiang Kai-shek, une autre fille a épousé Sun Yat-sen, qui est donc restée avec les communistes, et une autre fille est ensuite restée elle aussi avec les communistes. Donc la famille elle-même s'est scindée.
C'est tout ça, c'est des histoires de famille, quoi.
Ouais, pour tout ça, c'est plus très important aujourd'hui. Taïwan a beaucoup évolué depuis, mais il reste que en gros, ce meeting entre Xi et Trump est important, en sachant que c'est le premier de 4 meetings sur les 12 prochains mois. Oui. Qu'on n'a jamais vu le président chinois et président américain se rencontrer 4 fois en 12 mois. Alors, 4 fois en 12 mois, ça veut dire que l'un comme l'autre, puisqu'ils se sont mis d'accord pour se rencontrer 4 fois en 12 mois, l'un comme l'autre cherche quand même à faire des deals. Ce qui est aujourd'hui une bonne nouvelle. En sachant que Jake Sullivan, le directeur de la sécurité de Biden, et ainsi que Blinken, son ministre des Affaires étrangères, se vantaient de ne pas avoir été en Chine. Tout comme ils se vantaient tous les deux de ne pas d'avoir eu aucun contact avec la Russie. Alors, en pleine période de guerre. Donc, aujourd'hui, on peut...
Enfin, on est loin de 2008. On a les choses en avancée.
On peut, 2008, ça allait encore. Non, c'est... On est passé, en fait... Trump, en 2016, a changé complètement la narrative autour de la Chine. L'establishment américain est devenu très, très anti-Chine. Et maintenant, Trump, qui avait lancé ça, essaie de ramer en arrière.
Et il va demander sûrement à Xi de l'aider à réindustrialiser les États-Unis, non ?
Alors ça, c'était la grande rumeur d'hier sur les réseaux sociaux, etc., qui avait été lancée partout, par les Megyn Kelly, les Lara Loomer, etc., en disant « Ah, oh, c'est terrible, apparemment, Trump va demander 1 000 milliards de dépenses d'investissement de la part de la Chine aux États-Unis, que BYD ouvre des usines, etc., etc. C'est abominable, c'est affreux. »
Et pourquoi ça serait abominable ?
Alors, pour moi, c'est la grande question, en fait. Si on est américain aujourd'hui, tout comme si on est européen, on a trois choix. Le choix numéro un, c'est de bloquer les produits chinois, ce qui veut donc dire aujourd'hui, maintenant, avoir des produits inférieurs. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, mais quand on regarde les bagnoles que les Chinois produisent, quand on regarde les trains, quand on regarde les centrales nucléaires, quand on regarde aujourd'hui, après 10 ans d'investissement énorme de la part de la Chine, dans la plupart des produits, que ce soit lié à au transport, que ce soit lié à la robotique, que ce soit lié à la transmission d'énergie, la Chine fait ça bien mieux et bien moins cher. Donc le premier choix quand on est occidental, c'est de se dire j'en veux pas, merci beaucoup, et donc on condamne nos consommateurs à des produits inférieurs, ce qui est en gros ce que le Brésil a fait dans les années 70, etc., ce qui sur le long terme est un désastre. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de dire j'importe de Chine et basta. Ce que fait aujourd'hui, par exemple, le Chili ou l'Afrique du Sud ou l'Australie, de dire, bon, de toute façon, moi, je ne veux pas d'industrie automobile chez moi, donc allez hop. Et le troisième choix, c'est de dire, OK, ils font ça mieux que moi, mais faisons-le faire ici. Ce qui, de plus en plus, est l'optique européenne. Donc, la Chine.
C'est ce qu'a fait l'Espagne.
C'est ce qu'a fait l'Espagne, c'est ce qu'a fait la Hongrie, c'est ce qu'a fait la Slovaquie. C'est de signer des deals. C'est pas BYD, apparemment, vous faites des bagnoles qui ont quand même de la gueule.
Pas trop cher, venez les faire ici.
Donc, en gros, c'est les trois choix qu'on a. Faut pas se leurrer. Donc, ou bien on dit aux Chinois, vous le faites ici, ou bien vous le faites chez vous, ou bien on n'en veut pas. En gros, c'est les trois choix. Pour le consommateur et pour le travailleur, qu'il se soit européen ou américain, la meilleure option de loin, c'est de dire on le fait ici. Ça paraît tomber sous le sens, pour revenir à ce que tu disais. Donc aujourd'hui, les Américains de droite sont sans dessus dessous en se disant mais c'est terrible, la Chine va investir ici, c'est affreux, etc. Et moi, j'arrête pas de leur dire, et c'est quoi le choix ? C'est vous préférez avoir des produits inférieurs ? Ou bien vous préférez qu'ils le fassent là-bas.
Pas en avoir du tout,
ou qu'ils le fassent là-bas. Ou vous préférez avoir des jobs ici. Donc, pour moi, le type qui dit « Ouais, non, on veut pas d'investissement de la Chine », c'est le mec qui vit grassement dans un salon en parlant dans un micro, qui peut-être travaille sur les marchés financiers, etc., qui a un certain luxe dans sa vie, et qui pense pas au mec qui peut-être gagne un SMIC, etc., qui aimerait bien avoir une bagnole pas chère, premièrement, et deuxièmement, qui aimerait bien avoir un boulot dans l'usine qui produit la bagnole pas chère.
Ah oui, parce que c'est ça.
C'est le principe de base. Alors, derrière
parce
ça...
Parce qu'on oublie souvent que les États-Unis aussi, c'est des énormes distances et que la voiture y est absolument fondamentale.
Bah oui, puisque si on met 1 500 milliards de dollars... pour construire des nouveaux bateaux de guerre, ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre pour créer des transports en commun.
Voilà. Non, mais déjà, mais en plus, bon, pour qui un peu voyager, tu vas dans des endroits comme l'Oklahoma, la Caroline du Nord ou ce genre d'endroits, tu as des grandes lignes droites et tu peux faire 400 km. Et si tu n'as pas de bagnole, il n'y a pas de bus. Ah,
ouais, je vais te raconter quelque chose. Là, j'ai amené mon fils. Donc, moi, je passe beaucoup de temps à Vancouver. Mon fils devait faire un stage à Dallas. Il avait besoin d'une voiture pour l'été, pour faire son stage à Dallas. Donc, j'ai dit, bon, allez, je fais une partie de la route avec toi. On a mis dans le GPS, donc on est parti de Vancouver pour Seattle. Seattle, on est rentré sur l'autoroute. Donc Vancouver, Seattle, c'est 2 heures de route. Hein. Mmh. On rentre sur l'autoroute et j'ai la photo. Et après, donc ils nous disent tourner à droite dans 2600 km. Le GPS était tourné à droite dans 2600.
Et tout ça à 50 km heure.
Mais c'est 2600 km tourné à droite. Waouh. Quand t'es européen, ça t'es là, waouh. 2600 km, tu te retrouves à Moscou ici.
Ouais, c'est comme si t'allais de Madrid à Stockholm, quand même.
Ah, oui.
Non, mais cette histoire de. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que la mondialisation est loin d'être terminée.
Alors la mondialisation en Europe, dans le monde occidental, on dit tout le temps la mondialisation est terminée, etc. Je dis toujours, attends, non. La westernisation est terminée. Oui. La mondialisation est très différente dépendant de là où tu habites. Si tu habites à Saigon, si tu habites à Jakarta, si tu habites à Rio ou au Cap, l'idée que la mondialisation est terminée, les gens te regardent avec des gros yeux. T'es là, mais attendez, j'ai des bagnoles chinoises dans la rue, j'ai une centrale nucléaire qui vient d'être construite par un consortium coréen, j'ai un train qui est en train d'être construit par les Chinois. Tout mon charbon, ils m'achètent de plus en plus de charbon, ils m'achètent de plus en plus de cuivre. Donc l'idée que la mondialisation est terminée, sur les 10 dernières années, la balance commerciale chinoise, l'excédent de la balance commerciale chinoise est passé de 20 milliards de dollars par mois à 110 milliards de dollars par mois.
Oui, alors ça me pose une autre question, parce que cet excédent de la balance commerciale chinoise, ça me fait dire, mais au bout d'un moment, pour que nous, on puisse leur acheter des trucs, il faut aussi qu'on leur en vende.
Ah oui, bien sûr. Non, mais là, l'excédent de la balance commerciale chinoise reflète le fait que la monnaie chinoise est stupidement sous-évaluée. Alors, pour comprendre la Chine, bon, j'ai un graphique que je montre tout le temps, mais il faut vraiment comprendre le traumatisme de 2018.
Oui.
Et alors, ce qui s'est passé en 2018, pour revenir sur les semi-conducteurs, en 2018, le gouvernement américain dit au monde entier, personne n'a le droit de vendre de semi-conducteurs à la Chine. Et la Chine s'y attendait absolument pas. Ils ont été pris complètement au dépourvu. Et le gouvernement, en gros, panique. Ils se disent, s'ils nous bloquent sur les semi-conducteurs aujourd'hui, demain, ils peuvent nous bloquer sur les roues de bagnole, sur les transmissions, sur les produits chimiques. On est obligé d'être en autarcie sur toutes les lignes de production.
L'antifragilité, quelque part, du système chinois.
Exactement. Et donc, le gouvernement chinois dit aux banques, OK, on a une épargne énorme, on a la plus grosse épargne au monde, vous me capturez cette épargne, vous arrêtez de la prêter à l'immobilier comme vous le faites depuis 15 ans, vous arrêtez de la prêter aux consommateurs, on ne prête plus qu'aux industries. Donc, il y a un mec qui vient vous voir parce qu'il veut ouvrir une usine de bagnole, vous lui faites un chèque. Il y a un mec qui vient vous voir parce qu'il veut ouvrir une usine de pétrochimie, vous lui faites un chèque. Mais à part ça, personne n'a de pognon. Donc, l'immobilier se casse la gueule, le consommateur se serre la ceinture et la production industrielle passe au travers du toit.
Monnaie sous-évaluée, en plus.
Une partie de cette politique, c'était évidemment de garder une monnaie sous-évaluée. Parce que si tu veux devenir une puissance industrielle, ce qu'on a toujours vu, pour devenir une puissance industrielle, avoir une monnaie sous-évaluée, au départ, ça t'aide énormément. C'est ce qu'avait fait le Japon dans les années 70, c'est ce qu'avait fait l'Allemagne aussi dans les années 60 et 70. Bâtir une force industrielle... En gros, quand tu as une monnaie surévaluée, tu favorises le consommateur aux dépens du producteur. Quand tu as une monnaie sous-évaluée, tu favorises le producteur aux dépens du consommateur.
Mais donc, les Asiatiques, en général, on n'a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils conservent une monnaie sous-évaluée. C'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps.
Depuis la crise de 97, qui a été un énorme coup de massue pour eux. Mais aujourd'hui, très nettement, il y a un changement de politique dans la mesure où ils laissent le renminbi remonter. Et ils le disent ouvertement, ils sont maintenant pour un renminbi fort, alors qu'avant, ils étaient pour un renminbi faible. Mais en partie, parce qu'en effet... aujourd'hui, quand tu prends industrie par industrie, ils sont passés d'une situation où ils étaient dépendants vis-à-vis du reste du monde à une situation où aujourd'hui, ils dominent le reste du monde. Dans chaque industrie, à part les semi-conducteurs. Et encore une fois, pour revenir aux semi-conducteurs, aujourd'hui, le pari du marché, c'est de dire ah bah tiens, la Chine réussira pas. En gros, quand tu prends ce qui se passe, c'est que la Chine réussira pas à clôturer ce gap, en sachant que c'est la priorité numéro un du gouvernement. Donc, pour moi, c'est un pari super risqué. Alors, ça ne veut pas dire que le pari est faux. Mais moi, la façon dont je travaille sur les marchés, la façon dont j'essaie de gérer mes portefeuilles, etc., c'est j'essaie de trouver les paris qui sont faciles. Tu vois, et j'essaie d'éviter les paris qui sont difficiles. Donc aujourd'hui, les semi-conducteurs, c'est un pari où tu te dis « Ah bah de toute façon, le gouvernement chinois n'y arrivera pas. » Et pour moi, c'est un pari, je me dis « Ouais, peut-être, peut-être pas, qu'est-ce que j'en sais ?» Ce que je sais par contre, c'est que le gouvernement chinois a dit « Bon bah ok, au niveau industriel, on est good maintenant, on est bon, on n'a plus besoin de serrer la ceinture. Les banques recommençaient à prêter à l'immobilier, les banques recommençaient à prêter aux consommateurs, les banques, et puis on va laisser la monnaie monter. Donc aujourd'hui, je sais qu'on a des questions sur le yen, mais aujourd'hui quand je regarde en Asie, il y a trois très grosses monnaies en Asie qui comptent. Le yen, le won de Corée et le yen. Et entre ces trois monnaies, il y a deux gouvernements aujourd'hui qui te disent « Moi, je veux que ma monnaie monte. » C'est la Corée et c'est la Chine. Et ces deux gouvernements te disent « Moi, je vais faire ce qu'il faut pour que ma monnaie remonte. » Et tu as un gouvernement qui te dit « Moi, je veux que ma monnaie, elle baisse. » C'est le Japon. C'est le Japon. Donc, par exemple, entre ces trois monnaies, je sais qu'il y a des questions sur l'yen, c'est pour ça que j'en viens, mais entre ces trois monnaies, le pari le plus simple, c'est sur le won et sur le renminbi. Ça ne veut pas dire que le yen ne va pas monter. Mais encore une fois, moi, je cherche les paris simples, pas les paris compliqués. Je n'ai pas envie de me battre contre un premier ministre japonais qui, je crois, est bête à manger du foin. La vie est trop courte. La vie est trop courte pour faire des paris qui sont trop durs.
J'avais effectivement, puisqu'on parlait des questions, une question sur le Japon, puisque j'ai posé à nos auditeurs de l'Université de l'Espagne, de l'Université de l'Espagne, question pour Charles ou Louis-Vincent. Charles avait évoqué avec intelligence dans une dernière vidéo que les Japonais avaient peut-être dévalué leur monnaie en avance parce qu'ils avaient vu avant tout le monde l'ogre industriel chinois arriver.
Ça, j'y crois à fond, oui.
Cela leur permet de rester compétitifs, certes, mais l'ordre chinois dans l'industrie automobile, par exemple, vient tout juste d'arriver aux portes de l'Europe et commence seulement à tailler les croupières aux voitures japonaises. Pourquoi les Japonais feraient monter leur monnaie alors que c'est justement en ce moment qu'il faut combattre l'ogre et leur seule arme sont la dévaluation de leur monnaie? C'est le pire moment pour eux de réévaluer leur monnaie en pleine bataille de compétitivité. Un yen plus fort ne pourrait-il pas se faire s'ils sont à l'abri des Chinois?
Tout à fait, mais le problème, c'est que la monnaie, aujourd'hui, quand tu regardes les marges des sociétés japonaises, elles ne cessent de monter depuis 4 ans, depuis qu'ils ont commencé à dévaluer. Donc aujourd'hui, je crois que l'appareil industriel japonais a une rentabilité absolument extraordinaire avec ce taux de change. Et si la monnaie chinoise commence à monter contre le yen, ce qui a été le cas aussi, ben, on peut penser que ces marges vont continuer à se développer. Donc le vrai problème, c'est pas que le yen est évalué, sous-évalué, etc. C'est que les monnaies européennes aujourd'hui sont extraordinairement surévaluées par rapport à tout le monde asiatique. Donc c'est pas tellement, je dis simplement, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les taux longs au Japon sont aux alentours de 2,3, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus du taux de croissance du PIB. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans, puisqu'ils étaient à 0 ou à 3 ans. Donc, ce que je dis simplement, c'est que la structure financière du Japon, maintenant, les taux longs sont montés, et les gens qui peuvent aujourd'hui acheter au Japon, des taux qui leur donnent du 2,3%, ce qui leur était pas arrivé depuis des années. Donc, moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment, cet immense réservoir de placement que les Japonais ont fait à l'étranger revienne vers le Japon et que le yen monte de façon très forte sur ce rapatriement. Et ce qui se passe à ce moment-là, il ne faut pas oublier que le Japon aujourd'hui, pendant que la Chine est passée à 1 000 milliards de dollars de surplus annuel, eux, ils sont passés à 400 milliards de dollars de revenus de leurs placements étrangers. C'est-à-dire qu'ils gagnent un pognon parce que ils ont mis plein d'argent à l'étranger, ils ont acheté des obligations australiennes, ils ont acheté tout ça. Et aujourd'hui, les revenus sont quasiment 40% de ce que gagne la Chine avec son appareil de production. Donc je me dis, un de ces quatre, les 400 millions vont devenir supérieurs à tout ce que les Japonais peuvent sortir, et l'yen montera. C'est-à-dire que vous avez c'est le problème de la baignoire. Ils continuent, plus le yen baisse, plus leurs revenus de l'étranger sont importants. Et à un moment, ils vont devenir plus importants que les capitaux que les Japonais peuvent commencer à sortir. Donc je me dis, c'est pas possible. Il y a un moment où ça va se croiser. Je sais pas quand, mais c'est pas possible autrement.
Moi, quand je regarde une classe d'actifs, que ce soit une monnaie, une obligation, une action, tu peux regarder à travers quatre prismes. La première chose, c'est les fondamentales. Que fait le gouvernement, qui a la politique fiscale, politique monétaire, etc. Aujourd'hui, sur les fondamentales sur le yen, les fondamentaux sur le yen, alors en effet, il y a ce que Charles vient de souligner, mais il reste que tu te bats contre le gouvernement. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est le momentum. Est-ce que le marché va dans ton sens ou pas? Aujourd'hui, le momentum sur le yen n'est pas là. La troisième chose, c'est le investor positioning. Comment est-ce que le marché est positionné? Or aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a eu 4-5 ans de baisse sur le yen, tout le monde est positionné pour un yen baissier. Donc c'est là où il y a un potentiel de surprise potentielle, où tout le monde est un peu du même côté du bateau. Et enfin, la quatrième chose, c'est la valorisation. C'est, tu te dis, ok, est-ce que c'est plus le cas, par exemple, pour une action ou pour un marché. Tu dis, est-ce que c'est si peu cher que c'est pas grave, j'achète, je m'en fous.
Ouais, good price for money.
Je m'en fous, j'attends. Je sais que dans 5 ans, ça sera remonté. J'achète et je regarde même plus, quoi. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai sur le Japon, et c'est pour ça que quand je dis c'est un pari, pour moi, c'est un pari un peu difficile. Quand je regarde la Chine, par exemple, les fondamentales sur le renminbi sont très claires. Le gouvernement veut un renminbi plus fort, la monnaie est sous-évaluée, etc. Quand je regarde le investor positioning, personne n'en a, alors que c'est quand même la deuxième plus grosse économie au monde. Quand je regarde le momentum, c'est la meilleure marge. C'est la meilleure monnaie sur les 12 derniers mois et tout le monde s'en fout. Et quand je regarde la valorisation, c'est ridiculement bas.
Tout le monde s'en fout parce que tu le sais très bien, il y a ce fameux anything but China.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors,
qui peut changer désormais avec les quatre meetings et ainsi de suite. Ils vont devoir arrêter de faire de la presse négative au Washington Post.
Exactement.
Là.
Déjà, tu regardes, tu peux demander à tes auditeurs, tu fais un Google search sur Taiwan War. Il y a 3 ans, on parlait que de ça. Maintenant, plus personne n'en parle.
Oui, enfin, de temps en temps, il y a des articles qui sortent de Washington et qui te disent, ça y est, demain, on investit
Post,
Taïwan.
T'as le Washington Post qui en fait une fois tous les 2 mois parce qu'ils sont quand même obligés, compte tenu que c'est quand même la feuille de chou de la CIA. Ouais, de la CIA. Donc, ils sont quand même bien obligés de le faire une fois en temps parce qu'il faut bien faire monter les budgets.
Sinon, à quoi ça sert?
Mais donc, tu regardes.
Sur la Chine, la façon dont on essaie de jouer ça, nous, c'est simplement d'avoir 25 ou 30% d'actions chinoises.
Oui, mais donc tu regardes.
Alors que personne n'en a.
Tu regardes, mais sur les monnaies aujourd'hui, la Chine, sur tes 4 prismes, est 4 sur 4.
Le Japon est 3,5.
Le Japon. Alors, et même sur les valorisations, je dirais qu'aujourd'hui, pour celui qui va se promener, qui va de Chine en Corée et de Corée au Japon, le won coréen et le renminbi japonais sont bien moins chers que le yen. Donc, par exemple, tu veux une chambre d'hôtel de luxe à Pékin, c'est entre 100 et 150 dollars. À Séoul, c'est 200 dollars. Et à Tokyo, c'est 600 dollars. Alors, tu me diras, à Paris, c'est 1000 dollars. Et à New York, maintenant, c'est 1500 dollars. Donc, il reste que Tokyo relatif à l'Europe, le yen relatif à l'euro ou au dollar n'est pas cher, mais relatif au renminbi, au yuan, il est cher.
McDonald's Index, le plus bas, c'est le Tokyo quand même.
La Chine est bien plus bas. Ah, la Chine est bien, bien plus bas que le Japon. Ah, je te promets, j'étais au Japon il y a 2 mois, et Tokyo était vraiment bon marché en 2023, etc. Mais avec l'inflation qui se tape, parce que n'oublie pas que sur les 3 dernières années, la Chine et la Corée étaient en déflation, le Japon était en inflation.
De 4-5%.
Tu tapes 4-5% par an, et qui probablement sont particulièrement manipulés à la baisse.
En plus.
C'est probablement du 6 ou 7. Sur 3 ans, ça te bouffe une certaine sous-valorisation de ta monnaie. Hein.
Les gens qui vivent au Japon, qui sont, parce que j'en ai des auditeurs de l'UDE qui sont au Japon et qui disent, on le sent quand même, le prix des basiques, du riz, ainsi de suite, on le sent. C'est-à-dire la petite population le sent. Et ça, s'en plaint.
Et ça,
il y a autre chose sur le Japon, c'est qu'historiquement, compte tenu, quand il y a une crise qui se passe, c'est toujours entré fragile parce que Mme Watanabe rapatrie le fric à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Donc c'est un peu une assurance vie contre le reste.
Sauf que ça n'a pas été le cas les 5 dernières années. Ça n'a pas été le cas en 2022, puisque au moment de la crise ukrainienne, quand les marchés mondiaux obligataires et actions se cassent la gueule, le yen se casse la gueule aussi, et rebelote cette fois-ci au mois... Rebelote l'an dernier au mois d'avril, quand les marchés des actions sont cassés la gueule avec les Trump tariffs, le Liberation Day, etc.
Mais en 2024, ils avaient une hausse très forte.
Le yen avait une
hausse qui était repartie. Ils avaient repris tout de suite.
Ils avaient repris 5% pendant l'été et puis c'était reparti tout de suite. Regarde la courbe de ton yen. L'an dernier, il y a un an, quand les marchés des actions se prennent 15% de paume, le yen baisse. Et là, au mois d'avril de cette année, au mois de mars de cette année, quand les marchés des actions se reprennent 10% dans la gueule, le yen baisse à nouveau. Donc, le coup du yen antifragile, ça a été très, très vrai. Sauf que sur les 5 dernières années, on vient de se taper 3-4 crises de plus de 10% dans les marchés. Et chaque fois, tu perdais sur le yen. Donc, le yen en antifragile, c'est plus le cas. Le renminbi en antifragile, c'est vrai. Le yen, c'est plus vrai.
Bon, alors... Je voudrais qu'on revienne.
On en parlera avec nous.
Je voudrais qu'on revienne pendant 30 secondes à l'opposition qu'on avait fait au début, qui était les actions de croissance et les actions de valeur. Les actions de croissance étant les semi-conducteurs, je pense qu'on les a traités, et les actions de valeur qui sont peut-être plus celles de l'énergie. Or, si on doit aller dans les actions de valeur, beaucoup de nos internautes nous posent la question de ce que tu penses de l'Amérique du Sud. Quel est, si tu pouvais développer un petit peu dans la temporalité ce que tu vois, quels sont, parce que effectivement nous on est assez placés dans nos ETF en ETF énergie, et l'énergie en Amérique du Sud, ça veut dire quelque chose, il y a des potentiels et il y a d'autres aussi peut-être visions qu'on pourrait avoir de l'Amérique du Sud.
Mais c'est très difficile d'acheter des choses autrement que par des ETF, il n'y a pas d'ETF énergétique Amérique latine à ma connaissance.
Non.
Non, mais bon, si tu achètes par exemple l'ETF Brésil, le WZN, je crois que c'est, je sais plus, il faut vérifier, mais je crois que c'est genre un quart Petrobras et un quart Vale, quoi. De mémoire, hein, faut vérifier, mais en gros, c'est beaucoup. Même chose si tu prends, je crois que tu prends l'ETF de Colombie, t'as un tiers d'Ecopétrole. Tu peux me dire, tu peux tout simplement acheter du Ecopétrole directement. T'as pas besoin de t'embêter. Et puis tu peux acheter du Petrobras directement aussi. Hein. Les deux ont des ADR aux États-Unis.
Ça, c'est difficile pour nous.
Si tu veux acheter, ce que je veux dire, c'est si tu veux acheter de l'énergie en Amérique latine, en gros, c'est 5 ou 6 titres. Hein. Tu peux tous les acheter et te faire ton propre ETF.
Dans l'absolu, dans ta vision de l'Amérique latine, qu'est-ce que tu vois arriver?
À mon avis, il y a plusieurs choses qui se passent en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est probablement la région du monde sur laquelle je suis le plus bullish.
D'où ma question.
La première chose qui est très, très importante, c'est je crois que... tu connais la vieille histoire, tu fais pas les erreurs de ton père, tu fais les erreurs de ton grand-père. Dans le monde occidental aujourd'hui, nous, on a des banques centrales qui font tout ce qu'elles peuvent pour détruire la valeur de leur monnaie.
Charles appelle la fuite en avant de la monnaie, etc.
Ça, ils l'ont fait en Amérique latine il y a 30 ans, ou il y a 25 ans. Il y a encore 30 ans, le Brésil se tapait une inflation de folie, même chose pour l'Argentine. Du Venezuela, etc. Donc aujourd'hui, quand tu remarques, quand il y a eu le Covid, nous, ce qu'on a fait, on a imprimé du pognon, on a mis les taux à zéro, on a envoyé des chèques.
Ce que savent faire les banquiers centraux, c'est-à-dire du QE.
On a envoyé des chèques à tout le monde, etc. En Amérique latine, ils ont tout de suite augmenté les taux. Ils se sont dit, ça va être un choc inflationniste pour le monde. Le Brésil a augmenté les taux, le Chili a augmenté les taux, la Colombie a augmenté les taux, etc. Donc aujourd'hui, si tu veux, on a des taux réels dans le monde occidental qui sont négatifs, encore, en gros.
Encore, oui.
T'as des taux réels au Brésil aujourd'hui qui sont... Tu peux t'acheter des obligations indexées sur l'inflation au Brésil avec 6,5% de rendement. Même chose au Chili, tu prends du 4. En Colombie, tu prends du 6 sur l'inflation indexée. Donc, t'as des taux d'intérêt réels en sachant que les taux d'intérêt réels au Brésil, par exemple... Au pire moment de la crise du car wash sur Petrobras, le gros scandale, Lula finit en taule, président en taule, etc. Plus gros scandale de corruption. Les gens disent que c'est le plus gros scandale de corruption qui a jamais existé, des dizaines de milliards qui disparaissent, etc. À l'époque, les taux d'intérêt réels au Brésil étaient 7,25. Donc tout s'est cassé la gueule au Brésil à ce moment-là. On se dit, oh, c'est terrible, tout est verrouillé. Et aujourd'hui, tu es à 6,5. Donc tu vois, t'es toujours pas très très loin. Donc s'il y a un endroit au monde où tu dis, bah, tiens, les taux peuvent baisser de 100, 200, 300 points de base par an pour les 3, 4 années qui arrivent, c'est l'Amérique latine. Ça, c'est sans aucun doute, c'est le seul endroit au monde où les taux ont encore une autoroute devant eux pour baisser. Or, il y a peu de force aussi puissante pour les marchés que des baisses de taux.
De baisses
de taux à taux long, ça veut dire plus de consommation, ça veut dire un immobilier qui monte, ça veut dire des prix des actions qui montent. Et si tu peux avoir des taux qui baissent avec des monnaies qui montent,
c'est souvent le cas.
Alors là, c'est que du bonheur. Et c'est ce qui se passe en Amérique latine depuis en gros 18 mois. L'an dernier, en gros, les obligations d'Amérique latine ont pris 30%. Les taux ont baissé de 200 points de base, que ce soit au Chili, que ce soit... Alors,
on avait fait un dossier, nous, à l'UDE, sur les obligations brésiliennes.
Qui ont
très bien fonctionné. Pour ceux qui avaient envie de jouer un petit peu en dehors du portefeuille. Et ma foi, c'est plutôt content.
Ça reste, pour moi, la classe d'actifs la plus simple. Alors ensuite, il y a d'autres facteurs. Tu vas regretter d'avoir mis une pièce dans la machine, mais voilà. Tu l'as mise, maintenant tu dois accepter des conséquences.
Voilà.
Alors,
dilue ta main à la tête.
Voilà. La deuxième raison, si tu veux, c'est que maintenant, on a une politique étrangère américaine, la soi-disant Donro Doctrine, qui dit, bon, bah, l'Amérique latine, c'est à nous.
Ouais.
Et on va pas laisser les pays faire faillite. Donc, l'Argentine, qui, une fois tous les 10 ans, réussit à plus avoir de dollars, L'an dernier, ils arrivent, ah ben tiens, zut, il n'y a plus d'argent dans la caisse, donc on va faire faillite. Les Américains arrivent, ils disent non, pour une fois, alors que d'habitude, chaque fois, ils laissent faire faillite parce que ça permet ensuite aux Américains d'arriver et d'acheter des actifs pas chers. Ils disent non, allez hop, on vous fait un chèque de 20 milliards, ça suffit pas, allez hop, boum, 40 milliards, vous faites pas faillite. Et donc, si maintenant...
Il y avait Milley aussi.
Il y avait Milley, bien sûr, mais si, donc on aime bien Milley, etc., mais si... Maintenant, on part du principe que on laisse pas les mecs faire faillite parce qu'on sait que s'ils font faillite, finalement, ce sera pas les Américains qui vont arriver pour acheter les actifs pas chers, mais les Chinois. Donc, on veut pas de ça, donc pas de faillite. Ça veut dire que si tu détiens des obligations, que ce soit argentine, que ce soit colombienne, que ce soit péruvienne, etc., et tu dis ah bah de toute façon, j'ai le backstop du Trésor américain, je suis tranquille.
Oui, sauf que attends, au bout d'un moment, something's got to give. Tu as vu la dette américaine, les flux qui sont là.
Bien sûr, mais il reste que aujourd'hui, l'un des gros risques sur l'Amérique latine, c'est le fait que tous les 20 ans, ils remboursent pas leurs dettes.
Ouais.
Donc, si des Américains te disent, alors finalement, tu peux dire, on transfère le risque de l'Amérique latine aux États-Unis, donc ça veut dire que le risque américain quelque part augmente. Mais donc c'est un risque d'inflation, c'est un risque
Exactement.
De dévaluation du dollar, etc.
Et, oui.
etc.
Et c'est souvent, mais ils ont aussi souvent une dette qui est en dollars, c'est-à-dire qui est dans une monnaie qu'ils ne peuvent pas imprimer. Donc si on leur donne une garantie qu'ils auront des dollars, ben le risque de faillite en dollars n'existe plus.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as la dette brésilienne, donc il y a 6,5 réel, qui est en gros à 13,5-14% nominal. Tu te dis, bon, bah, là, tu vas passer en nominal, tu vas passer de 14 à 10, puisque t'as plus 5. Hein.
Donc, il faut attendre les élections d'octobre.
Donc là, tu arrives en fait au troisième point, mais là, je ne suis même pas sûr que ce soit aussi important qu'autrefois, c'est que le monde politique d'Amérique latine était très divisé entre une gauche quand même très, très marxisante et
Mélenchon.
Et une gauche mélenchoniste, quelque part. Sauf que pas pro-immigration, contrairement à Mélenchon.
Mélenchon a fait ce choix dans les années 80-90 parce qu'au début, il n'était pas du tout pro-immigration. Si tu regardes les premiers discours de Mélenchon, il était en réalité quelque chose qui aurait pu fusionner avec Marine Le Pen.
La gauche était toujours ça. La gauche, prends le parti travailliste anglais. Au départ, ils étaient anti-européens et anti...
Et ils disaient, venez prendre le travail de l'ouvrier.
Bien sûr.
Et donc, ils étaient anti-immigration.
C'est ce que disait Georges Marchais tout le temps.
Mais oui, et ils disaient, voilà, vous venez prendre le travail des petits blancs de la chaîne d'usine. Donc, ils étaient anti-immigration.
Ce qui reste le cas aujourd'hui de la gauche... de la gauche d'Amérique latine, parce qu'elle se voit comme une gauche qui protège le travailleur.
Voilà, c'est ça, le sport campesino, ce qui est un exploitado.
Et que les méchants capitalistes essaient de faire venir du travail moins cher, etc.
Voilà.
Donc, pour exploiter le travailleur. Donc, mais, mais,
y a une logique intellectuelle au moins.
Oui, oui, oui. Qui qu'on ne trouve pas dans les partis de gauche
pensée. Bon, donc, mais... c'est pas vraiment mélenchoniste, quoi. Mais bon, tout ça pour revenir. La scène politique d'Amérique latine était divisée entre une gauche très marxisante et des partis de droite souvent très pro-américains. Et l'idée, en fait, chaque fois que la gauche était élue, les mecs de droite se disent « Oh là là !» Alors, et vraiment, honnêtement, l'Amérique latine, c'est le seul endroit au monde où quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, s'il est riche, il est de droite. Si tu vas en France, tu peux rencontrer des riches qui sont de gauche. Aux États-Unis, tu rencontres plein de riches qui sont de gauche. En Amérique latine, si t'es de riche, t'es de droite. Et quand la gauche est élue, tu dis « Ah bah ça y est, c'est bon, ça va être Chavez, ça va être l'Argentine, on va tout me prendre. Allez hop, je me barre à Miami et je prends mon pognon avec moi. » Et quand la droite revient au pouvoir, à ce moment-là, les mecs reviennent. Alors, la première chose, c'est que cette gauche marxisante en Amérique latine est quand même plus aussi marxisante qu'autrefois. En partie parce qu'ils ont vu le désastre de l'Argentine, ils ont vu le désastre du Venezuela.
Et de Cuba.
Ils n'ont peut-être pas envie de se faire abduquer en pleine nuit aussi par
non, mais c'est même pas ça. Mais tu regardes, même là, on a eu 10 ans de président de gauche au Chili, etc. Et ça, et Lula au Brésil, ça, tu vois, ça n'a pas été. Encore une fois, ça n'a pas été Chavez. Quand Lula est arrivé, moi, je me souviens, tout le monde disait, ah, ça va être Chavez, ça va être terrible, etc. Et puis, bon, finalement, donc, la gauche est plus aussi marxisante qu'autrefois. Mais surtout, ce qu'on voit aujourd'hui en Amérique latine, c'est une vague de droite. On t'a parlé de Milei, on l'a vu au Salvador avec Bukele, on l'a vu au Chili sur la dernière élection. Alors là, il y a tout un tas d'élections qui arrivent. Il y a la Colombie à la fin de ce mois, où pour l'instant, dans les sondages, c'est 50-50, mais on verra.
Géant pour l'Amérique latine, c'est le Brésil.
Ouais, c'est le Brésil. Et là, bon, donc l'élection qui aura lieu cet automne au Brésil est assez importante. Tout ça, on verra. Mais soit dit en passant, aujourd'hui, que ce soit en Colombie ou au Brésil, qui sont les deux prochaines élections, on a déjà des gouvernements de gauche. Donc, si la gauche est réélue, ça change pas la chose. C'est ce qui est déjà dans le prix. Si la droite est élue. Par contre, c'est la bonne surprise, et les taux probablement prennent 200 points de base. Dernier mouvement sur l'Amérique latine, je crois qui est complètement sous-estimé par tout le monde, c'est que la grande réforme de Pinochet, ça a été la privatisation des retraites au Chili. Donc au Chili, ce qui se passe, c'est que chaque mois, tu mets ton pognon dans la retraite, mais tu décides là où tu mets ton pognon. C'est-à-dire que au Chili, tu as 6 compagnies séparées qui sont des compagnies privées.
Donc tu peux choisir des fonds de pension.
Alors tu choisis ton fonds de pension, tu as 6 compagnies.
Donc comme en Suède.
Tous les mois, tu mets ton pognon.
D'accord.
Et tu as un plan A qui est 100% actions, un plan B qui est 80% actions, 20% obligations, ou un plan E qui est 100% cash et obligations. Donc tu choisis où tu veux être sur ton risque et tu choisis la boîte qui va te donner dans laquelle tu investis. Et tu peux passer de l'un à l'autre sans problème, etc. Et donc, la première chose, c'est que donc, le Chili l'a fait. Tout le monde s'est dit, ah ben tiens, ça marche pas si mal. Donc, la Colombie l'a fait, le Pérou l'a fait, le Mexique l'a fait. Et que ces fonds de pension, maintenant, tu vois, 20 ans, 30 ans plus tard, où tout le monde met du pognon tous les mois, ça fait maintenant des vraies sommes. Si tu veux, au Chili, t'es à plus de 600 milliards de dollars dans les fonds de pension. Au Pérou, t'es à 200 milliards. En Colombie, t'es à 300 milliards. Au Mexique, t'es à 600 milliards aussi. Et ce qui veut dire que, en fait, ces fonds de pension, comme tout investisseur, a toujours un biais pour acheter local. Autrefois, ce qui se passait, c'est si t'avais un problème en Argentine, le gérant qui était basé à New York ou à Londres disait « Ah, il y a du merdier en Argentine, bah, je vais vendre mon Brésil, tiens. » parce que je vais avoir des rédemptions.
Oui.
Moi, je suis gérant pays émergent, je suis à Londres, il y a l'Argentine qui fait faillite, je sais que je vais avoir des rédemptions, donc allez hop, je vends mon Brésil parce qu'il va falloir que je rende mon pognon. Et donc, c'est pour ça que chaque fois, dans les pays émergents, quand on avait un qui commençait à vriller, t'avais une espèce de contagion sur les autres.
Bien sûr.
Même si les autres avaient rien à voir dans la bagarre.
Mais c'est
que
moi.
l'acheteur marginal, l'acheteur et le vendeur marginal étaient un investisseur étranger. Aujourd'hui, de plus en plus, l'acheteur marginal est le fonds de pension local. Et en fait, ce qui se passe, si tu as une mauvaise nouvelle et que demain, on vient de le voir, là, avec la guerre, La première réaction du marché, ça a été de dire « Oh là là, la croissance mondiale va s'effondrer, le cuivre va se casser la gueule, allez hop, je vends le peso chilien, je vends les obligations chiliennes et je vends le marché chilien. » Ça a été la première réaction du marché. Le peso chilien, au mois de mars, perd 5%. Et ben, les fonds de pension chilis se sont dit « Ah ben, c'est parfait, moins 5%, allez hop. » Hop, j'achète et je rachète les obligations aussi. Et donc, tu as un acheteur sur DIPS qui n'était pas là autrefois et un acheteur sur DIPS qui devient de plus en plus grand en sachant en plus...
Donc, ça veut dire que ces marchés vont devenir secures pour l'investisseur.
Pour moi, ils le sont déjà.
Et, quand tu as un fonds de 600 milliards qui rachète sur DIPS derrière.
Et surtout maintenant, donc nous, on a les fonds de pension colombiens comme clients. Tu vas les voir et ils te disent, moi, je peux gagner 14% sur mes taux à 10 ans en Colombie. Donc, si tu me fais pas du vin, c'est pas
la peine que je parle avec toi.
Alors ça fait un acheteur pour d'activité d'action locale numéro un. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est que n'oublie pas ces fonds de pension, la décision d'allocation d'actifs est dirigée par en fait l'individu.
Oui.
L'individu qui donc. Ce que l'on a remarqué en Colombie, ce que l'on a remarqué au Chili, ce que tu remarques au Pérou, c'est que quand la gauche est élue, tout le monde se dit « Oh là là là, hop !» et ils se mettent tous en cash et en obligation. Et quand la droite est élue...
Ils rachètent des actions.
Ils rachètent des actions. Or, ce qui se passe, ils rachètent des actions locales. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, demain, si la droite est élue, c'est pour ça que moi je suis bourré d'éco-pétrole aujourd'hui, qui est en gros un tiers du marché colombien, c'est que si la droite est élue demain, tous les Colombiens vont dire « Allez hop,
allez.
On rachète ». En plus, Ecopetrol d'autant plus, parce que le gouvernement de gauche n'arrête pas de dire « On va nationaliser Ecopetrol, on va nationaliser Ecopetrol, il n'y a pas de raison que ce soit une boîte privée, etc. » Donc, la droite revient. Tu as 12% de rendement, oui. Mais alors, si la droite revient, tu te dis « Qui va vendre Ecopetrol ?» Qui va le vendre ? Parce que je sais qui va l'acheter. Tous les fonds de pension colombiens, ils ne vont pas avoir le choix parce que les mecs sous-jacents vont dire je ne veux plus être en obligation, maintenant je veux être en action. Donc tous ces mecs-là seront acheteurs forcés. Qui va être le vendeur ?
C'est-à-dire qu'il arrive quelquefois...
Tu as des vendeurs, mais pas au prix d'aujourd'hui.
Pas au prix d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il arrive
un moment, un certain prix,
où tu dis je vais vendre. C'est tout.
Le vendeur, ce sera moi, en effet, mais pas au prix d'aujourd'hui.
Pas au prix d'aujourd'hui, au prix de demain, et voilà.
Donc, grosso modo, il faut se bourrer de Chine et il faut se bourrer d'Amérique latine.
Si je devais résumer...
Il y a d'autres choses à faire, mais dans
une réflexion globale de
non, mais ce que Charles dit est important, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., il serait tentant de se dire « Oh là là, c'est la fin du monde
d'aller se mettre
dans un coin et de pleurer, etc., de dire avec le pétrole qui monte, avec la vague inflationniste qu'on va se prendre, la crise inflationniste... »
J'aimerais faire un point, c'est que les Français, si on regarde, parce que là, on a parlé de géopolitique et on a parlé de macroéconomie à cette hauteur, mais pour les Français, il va y avoir un moment difficile. Là, on n'a pas encore pris, parce que les premiers bateaux sont en train d'arriver, on n'a pas encore pris la pleine mesure de la crise inflationniste sur l'alimentaire que tu rappelais tout à l'heure, pour nous, les Français lambda.
J'ai tellement de peine pour les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est terrible. Ils se tapent une hausse énorme du prix des engrais, ils se tapent une hausse énorme du prix du diesel, et de l'autre, pour l'instant, le prix du blé, le prix du maïs, etc., n'augmente pas. N'a toujours pas augmenté.
Donc il y a des gens qui vont se retrouver pris dans cet étau avec des marges très petites. Ça va être vrai probablement de gens qui dépendent beaucoup de l'énergie. On pense aux boulangers. Encore une fois, on embrasse nos cousins. Mais il y a des métiers.
EDF vend aujourd'hui à l'Allemagne, etc., son électricité à un prix négatif.
Oui, ça, je sais. Jean-Jacques m'expliquait le truc. Et il m'expliquait... Bon, je suis probablement pas très intelligent, mais j'avais du mal à comprendre.
Non, mais c'est parce que c'est des inspecteurs des finances, monsieur, qui ont fait les montages. C'est pour ça que vous comprenez
pas. Il m'a expliqué trois fois. J'ai dit, écoute...
Il t'a expliqué l'AREN.
L'AREN.
Non,
il m'a expliqué, etc. Mais bon,
il faut être inspecteur des finances, monsieur. C'est pas donné à tout le monde.
J'ai pas fait les bonnes études.
T'as pas fait les bonnes études, voilà. C'est que les plus intelligents. C'est que pour Bruno Le Maire.
Ouais.
Voilà.
Il était normal, bien.
Oui.
C'est l'inspecteur des finances.
Enfin bon.
Enfin, monsieur.
Non, je sais pas. Ils n'ont pas préféré une règle de 3, normal.
Normalement. Lui, il savait pas combien il y avait dans un hectare.
Mais il savait pas faire une règle de 3 non plus.
Il est normal sup. Lettre.
Ouais, mais même normal sup lettre, tu devrais pouvoir faire une.
Non, mais au pire du pire, quand on te dit il y a combien dans un hectare, tu sais, tu l'as fait au brevet, tu te dis, bah, c'est des multiples, c'est 1000.
Ouais.
100. Tu vois, tu. Take a shot, tu vois, tu trouves un truc. Ça va être pas loin, tu rajoutes des zéros à la fin de ton truc. Bon, voilà.
Enfin. Monsieur Macron pensait que la Guyane était une île, donc. Sans blague. Il est inspecteur des finances, oui.
Il pensait que la Guyane était
une île. Mais il l'avait dit quand il était là-bas, oui. Donc on voit que la qualité de notre enseignement supérieur.
Est-ce que tu sais quelle est la plus longue frontière française?
Oui, c'est avec le Brésil.
C'est avec le Brésil, oui. La plus longue frontière française, c'est avec le Brésil.
Ouais, ça m'étonne.
C'est une question piège.
Donc, on voit bien. Alors, c'est très important. C'est ce que tu as dit, c'est très important. C'est-à-dire, ne tombez pas avec votre argent qui est libre, disponible et encore à vous dans le piège du pessimisme.
Non, parce qu'il y a des choses à faire.
Il y a plein de trucs à faire.
Voilà.
Non, il y a. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde de l'énergie. Dans la mesure où, aujourd'hui, si les prix restent où ils sont, il y a des entreprises qui vont générer des cash flows énormes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire en Amérique latine. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire en Asie où les monnaies sont complètement sous-évaluées. Donc, une monnaie sous-évaluée inclut le yen qui est complètement sous-évalué. Des monnaies sous-évaluées, ça veut dire deux choses d'habitude. Ça veut dire ou bien des marges d'entreprise qui sont dopées, ce que l'on voit en Corée, ce que l'on voit en...
on en parle souvent au Japon, les entreprises sont, enfin, internes ont un cash flow absolument hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que
ça veut dire où ça, ou une inflation qui va s'accélérer.
Oui. Et la façon de résoudre ça, c'est la monnaie qui monte.
Sauf si tu as des politiques qui font tout en place pour que ça ne se passe pas. Ce qui est le cas au Japon quand même depuis 2-3 ans, puisqu'on a une inflation qui est quand même très très élevée au Japon, une politique monétaire, une banque centrale au Japon qui refuse d'augmenter les taux, une politique fiscale qui non seulement refuse de serrer la ceinture, mais en fait on remet une dose, puisqu'on a une première ministre japonaise, comme je disais, qui est vraiment bête à manger du foin et qui explique ce qu'on va faire, c'est plus de dépenses dans l'armée.
Keynésienne.
Mais à fond. Elle est à fond. Avec une inflation qui est déjà.
Qu'on nous a vendue de droite. Dessus.
Mais alors, ceci étant dit, c'est ce pourquoi les Japonais ont voté. Donc, elle te dit aujourd'hui, mais attendez, moi j'ai fait campagne, j'ai dissous le Parlement, j'ai dit voilà ce que je vais faire, les mecs ont voté, donc je le fais.
Donc, depuis quand les types ont-ils ce pourquoi ils ont été élus?
Surtout au Japon.
Moi, j'ai toujours cru qu'au Japon, les élections, c'était un théâtre d'ombre, le théâtre japonais. Qui était gouverné par des gens sérieux derrière.
Quoi. N'empêche que cette fois-ci, mais justement, les gens sérieux, on commence à avoir un peu peur. Parce que le risque au Japon, c'est qu'avec cette politique fiscale qui s'emballe, une politique très très antagoniste. Aujourd'hui, le Japon est de plus en plus en porte-à-faux, dans la mesure où les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour se rapprocher de la Chine, dont ils se rendent compte qu'ils ont besoin, et elle fait tout ce qu'elle peut pour antagoniser la Chine de plus en plus.
Oui.
Donc elle se retrouve de plus en plus en porte-à-faux. Donc tu te dis aujourd'hui, est-ce que c'est bien malin?
Sachant que la Chine, par ailleurs, a tissé des liens avec tout son bassin, elle.
La Chine aujourd'hui tisse des liens très très forts avec la Corée du Sud.
L'Arabie Saoudite.
Alors bon, de l'autre côté aussi, etc. Mais donc de plus en plus, le Japon se retrouve tout seul.
Alors, ils étaient très vassalisés aux États-Unis, mais il y a un moment où les États-Unis eux-mêmes se rapprochent de la Chine, ils vont se retrouver comme des clampins tout seuls dans leur coin.
C'est ce qui est en train de se passer, mais ça revient à ce que Kissinger disait, c'est être un ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être un ami des États-Unis, ça peut être fatal.
Tout à fait.
Voilà, sur ce grand mot, je pense qu'on a fait une émission passionnante. J'espère qu'elle vous aura passionné autant que nous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous, à liker, à en parler autour de vous. Faites-la bruisser un petit peu parce que je trouve que c'est une émission fondamentale. Et en attendant, un mot de la fin, vous avez...
Moi, mon mot, c'est tout simple. Si vous passez par Hong Kong, venez dire bonjour.
Fais gaffe, les gens, ils viennent. C'est ce que disait notre grand-père. Mon grand-père disait toujours, faut pas inviter les gens, ils viennent. Et c'est vrai, ils viennent. Nous, on voit débouler des gens, parfois, le matin, comme ça.
C'est moi qui arrive le matin, comme ça, qui dit, je vais passer la tête pour voir si vous étiez là.
Passez au bureau de Hong Kong. Vous pouvez me passer par le site gafcal.com.
Voilà. Venez dire bonjour. Passez voir Louis, vous verrez un vrai bureau in situ.
Il y a beaucoup...
Il n'y a pas de chien dans notre bureau. On en avait au début. naïve au début, mais au fur et à mesure, on est devenu sérieux, on s'est mis dans une vraie tour sérieuse.
Mais quoi, le DAF, dans le une... DAF est l'élément fondamental.
Il est là. Ouais.
Mais je sais, je sais.
Ouais. Moi, j'en ai qui m'a beaucoup menti.
J'en ai quatre de chiens, mais j'ai pas le droit de les amener au bureau.
Mais quand on était, quand on a créé GAFCAL ensemble il y a longtemps, il y avait un troisième que tu n'as pas mentionné, c'était Oshkosh, qui était le chien.
Qui était mon chien.
Qui était très sympathique.
Qui était mon golden, mais bon, ça fait un moment qu'il nous a quittés.
Oui, mais ça fait un élément de quand même de...
Ah, c'est super, ouais.
Mais c'est le Chief Happiness Officer.
Ouais. Exactement.
Voilà, et Jeeves est très fort pour ça. Voilà, merci encore pour tout. On compte sur vous et à la semaine prochaine. Merci.
Merci.
Merci.